VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Bagassi Koura pour ce bulletin d'information. On commence tout de suite par l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Toujours pas de victoire pour la Côte d'Ivoire. Il y a une demi-heure à Malabo en Guinée équatoriale, les éléphants de Côte d'Ivoire et le Mali ont fait jeu égal un but partout. Et c'est même les aigles maliens qui ont ouvert le score dès la 7e minute par Sako. Le but ivoirien est intervenu à la 86e minute grâce à Max Gradel dans le même groupe D. Tout à l'heure à 19h, ce sera une opposition Cameroun-Guinée. Et toujours en football, l'attaquant camerounais Samuel Eto'o, qui joue présentement à Everton en Premier League anglaise, devrait signer demain dimanche à la Sampdoria de Gênes, selon la presse italienne citée par l'AFP. Selon les mêmes sources, le joueur a passé cet après-midi la visite médicale à Rome. Des combattants du groupe islamiste armé Boko Haram ont abattu hier vendredi 15 personnes dans un village proche de leur fief historique de Maïdougouri dans le nord-est du Nigeria. C'est ce que nous apprend ce samedi l'AFP, citant un témoin et des forces de sécurité. Selon une source sécuritaire, les terroristes ont attaqué le village de Kambari, qui est situé à moins de 5 km de Maïdougouri. Vers 5 heures du matin, ils ont tué 15 personnes et ont mis le feu à tout le hameau, a indiqué la même source. En Mauritanie, les prisonniers salafistes des fondamentalistes musulmans qui retenaient deux surveillants en otage depuis vendredi à la prison centrale de Nouakchott ont obtenu la libération de quatre de leurs et mis fin à leur mutinerie dans la nuit. C'est ce que nous rapporte l'AFP, citant une source pénitentiaire. Les salafistes, dont plus d'une dizaine sont condamnés à mort ou à la prison à vie, protestaient contre le refus des autorités pénitentiaires de laisser sortir deux au moins des leurs qui avaient purgé leur peine. Et puis Claudia Priest, l'humanitaire française qui avait été retenue cette semaine en otage en Centrafrique par des miliciens chrétiens anti-Balaka, a raconté à l'AFP avoir été frappée et menacée de mort par ses ravisseurs. En RDC, dérapage, c'est le mot utilisé selon l'AFP par le président de l'Assemblée nationale pour qualifier la répression de la police qui a tiré dans la foule à Kinshasa durant les violences meurtrières du début de la semaine provoquées par un projet de loi électorale contesté. En Côte d'Ivoire, les avocats de Simone Gbagbo parlent d'improvisation dans le procès de l'ancienne première dame jugée pour les exactions commises lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Ils mettent en cause des accusations faibles, des enquêtes poussives et des témoins hésitant.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au moins 21 personnes sont mortes samedi suite à des tirs de roquettes sur la ville de Mariupol. Les rebelles avaient annoncé qu'ils lançaient une offensive dans cette partie de l'Ukraine. Les roquettes qui ont touché un marché et les bâtiments résidentiels ont également fait 80 blessés. L'attaque est survenue quelques heures après que le chef rebelle dans la région de Donetsk a dit qu'il n'y aura pas d'autre pour parler de paix avec Kiev. Mariupol se trouve sur la mer d'Azov entre la Russie continentale et la péninsule de Crimée, Russie annexée. Les dirigeants du monde entier convergent vers l'Arabie Saoudite pour présenter leurs condoléances après la mort du roi Abdullah cette semaine. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jafar Zarif, a effectué le déplacement malgré les tensions profondes entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Quant au président américain Barack Obama, il va écourter sa visite en Inde pour se rendre dans le royaume saoudien ce mardi. Et puis le gouvernement du Japon dit vérifier l'authenticité d'une vidéo semblant montrer des militants de l'État islamique tuant l'un des deux otages japonais qu'ils détiennent. Des milliers de Palestiniens ont manifesté ce samedi à Ramallah et Hébron en Cisjordanie, occupés à l'appel des mouvements islamistes contre la publication par le journal français d'une nouvelle caricature du prophète Mahomet.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Washington, la Voix de l'Amérique, un micro dédié avec vous pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme que vous pouvez suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord, Ebola baisse des nouveaux cas de la fièvre hémorragique, mais l'Organisation mondiale de la santé appelle à la vigilance.
Même si ça représente en fait un bon signe prometteur, le but reste d'interrompre toutes les chaînes de transmission et on n'est pas encore arrivé à ce point.
Tariq Jasarevic de l'OMS nous en dira davantage. De nouveaux travaux sur l'évolution de la tuberculose permettent d'espérer la mise au point de nouveaux diagnostics et traitements.
C'est un travail en effet important qui a pu être réalisé grâce à la collaboration d'un consortium international regroupant des équipes non seulement en Europe, mais aussi en Afrique, en Amérique et en Asie.
Tous les détails avec Philippe Suplet de l'Institut Pasteur à Lille. Et la sonde Dawn de la NASA, l'agence spatiale américaine, s'avance vers Cérès, une planète naine nichée dans la ceinture d'astéroïdes aux confins du système solaire qu'elle va rejoindre en mars. Moins de 150 nouveaux cas de fièvre à virus Ebola ont été signalés la semaine passée en Afrique de l'Ouest, mais les efforts doivent se poursuivre pour éradiquer la maladie qui a fait jusqu'ici plus de 8600 morts. C'est ce qu'a déclaré l'Organisation mondiale de la santé. On écoute son porte-parole Tariq Jasarevic.
On constate une baisse des nouveaux cas d'infection d'Ebola dans tous les trois pays affectés et c'est effectivement un bon signe. Toutefois, il ne faut pas trop vite célébrer, il ne faut pas baisser les gardes, il faut continuer sur la lancée. Donc le travail n'est absolument pas fini. Donc même si ça représente en fait un bon signe prometteur, le but reste d'interrompre toutes les chaînes de transmission et on n'est pas encore arrivé à ce point.
Pour donner une idée de cette baisse, au Libéria, il y a eu 8 nouveaux cas selon l'OMS en une semaine, alors qu'il y en avait plus de 300 par semaine en août et en septembre.
Oui, dans tous les trois pays, en fait, on enregistre un nombre de cas qui est le plus bas depuis des mois. Encore une fois, il faut être très prudent. Il suffit d'un événement comme un enterrement non sécurisé pour qu'il y ait de nouvelles chaînes de transmission. Donc, c'est vrai qu'on a plus de moyens sur place, on a plus de capacités de prise en charge, on a plus d'équipes pour les enterrements sécurisés, mais il faut vraiment continuer à bosser. Il ne faut pas se satisfaire avec ce progrès parce que le but reste de ne plus avoir de cas d'Ebola dans les trois pays.
Le docteur David Nabarro a demandé hier $1 milliard pour achever de juguler le virus de la fièvre hémorragique. Est-ce qu'il y a eu une réaction à cet appel ?
On continue à faire appel à la communauté internationale, aux bailleurs de fonds, à ne pas se fatiguer d'Ebola. Le fait que Ebola n'est plus dans les nouvelles ne veut pas dire que les gens ne sont plus infectés dans les trois pays. Et tant qu'il y a la transmission de virus dans les trois pays, il y aura un risque pour les autres pays aussi. Donc nous, on va continuer à rappeler le monde de ce qui se passe dans les trois pays. Et donc, il faut absolument qu'il y ait le soutien opérationnel et aussi financier pour qu'on continue à faire cette bataille.
Tariq Jasarevic de l'Organisation mondiale de la santé, il était joint à Genève. Camille Grosdidier qui vous accompagne pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme de La Voix de l'Amérique que vous suivez sur VOA Afrique. Toujours concernant la fièvre hémorragique à virus Ebola, sur le terrain, l'ONG Médecins sans frontières estime que malgré la nette baisse du nombre de personnes affectées par le virus, la crise suscitée par l'épidémie dans les trois pays les plus affectés, Libéria, Sierra Leone et Guinée, reste grave. Il faut rester vigilant, conseille MSF. D'autres précisions avec Dorian Job, gestionnaire adjoint du programme d'urgence de MSF.
On voit une claire diminution du nombre de cas un peu partout, plus particulièrement au Libéria où vraiment le nombre de cas ces dernières semaines ont fortement diminué, ce qui est un très très bon signe. Sur la Sierra Leone, la courbe a commencé à diminuer un peu plus tardivement à partir de décembre et on remarque déjà dans les endroits où on travaille aussi une diminution, pas autant que celle du Libéria, mais déjà une diminution du nombre de cas. Quant à la Guinée, on est un peu plus incertain parce que certainement ces dernières semaines, il y a une diminution de cas. Mais du fait que les épidémies, il y a plusieurs courbes, trois au cours de l'année, on est un peu plus attentif à ce niveau-là.
Est-ce que les populations acceptent mieux les contraintes nécessaires pour limiter la contagion?
En fait, je pense qu'il y a un gros travail dans l'ensemble des pays au niveau de l'acceptation des populations. Et une de nos impressions est que c'est un facteur extrêmement important. Et il y a aussi des variantes dans chaque pays. Donc, comme on voit dans certains pays, il y a eu un énorme effort de la population pour pouvoir se mobiliser, s'isoler, comme ça s'est passé, par exemple, sur certains pays comme le Libéria, où ils se sont isolés volontairement pour protéger les familles. Et on a vu vraiment l'effet très important. D'autres, c'est arrivé un peu plus tardivement parce qu'il y a besoin aussi plus d'informations. Et dans d'autres pays, ça reste quand même une grosse question encore au sens stigmatisé, mais aussi qu'un pays comme la Guinée, c'est un des points les plus inquiétants au niveau de la Guinée, c'est l'acceptance de la population qui, dans certains endroits, dans d'autres, est très bonne et reste très, très insuffisante, et ce qui explique les courbes récurrentes dans ce pays.
Et du côté des systèmes de santé publique, Libéria, Sierra Leone et Guinée, alors est-ce qu'ils ont pu être suffisamment renforcés à votre avis?
Il faut voir que le système de santé a complètement été aussi traumatisé avec pas mal de décès et pas mal de cas dans les systèmes de santé. Vous savez aussi dans ces pays-là que le nombre de staffs médicaux n'est pas aussi important. Et donc ce qui a conduit vraiment à un collapse du système de santé. Il commence à se remettre en place lentement. Et donc ils avaient un gros besoin au niveau protection, ce qui a été fourni au niveau du supply. Mais il y a aussi toujours le deuxième volet, c'est aussi le changement de comportement, ce qui prend encore du temps. Et à ce niveau-là, on pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire parce que ce qu'on voit au niveau de la protection reste encore dans pas mal d'endroits loin de ce qui serait satisfaisant.
Les frontières restent quand même poreuses en Afrique de l'Ouest. On ne peut pas garantir vraiment que les malades ne les franchiront pas.
Ce qui se passe, hein, il y a plusieurs facteurs. Hein. Il faut voir que l'largeur de frontières est extrêmement importante et aussi voir aussi la perspective parfois des patients. C'est que, surtout au début de l'épidémie, c'est qu'ils vont essayer d'aller dans les endroits où ils espèrent trouver des soins et d'être traités pour la maladie, ce qui explique aussi certaines choses. Donc à ce niveau-là, ce qui est aussi très important, après la mise en place de pas mal de centres, surtout dans les grandes villes, etc., c'est de regarder de plus près tout ce qui est frontalier et donc essayer d'avoir des stratégies jointes entre les pays de la région, les trois pays de la région, pour améliorer le système de surveillance et l'accès aux soins dans ces zones frontalières pour que les personnes qui passent les frontières puissent pouvoir être tracées et recevoir les soins le plus tôt possible.
Quelles sont finalement les dernières recommandations de Médecins sans frontières aux pays de la région?
Il y a plusieurs aspects en y pensant. C'est que, comme vous savez, l'Ebola, il n'y a pas eu qu'un impact au niveau mortalité sur les cas de ce virus, mais il y a une répercussion énorme, encore plus importante, sur tout le système de santé et aussi l'économie du pays. Donc ces pays sont complètement traumatisés, si je peux dire, au niveau de l'Ebola, mais aussi toutes les conséquences de l'Ebola qui sont encore plus importantes que l'Ebola. Donc si on pouvait faire des recommandations, c'est un, c'est que de continuer au niveau d'essayer d'avancer pour pouvoir essayer de réduire maximum le nombre de cas. Et cette deuxième phase est parfois plus difficile, c'est-à-dire aller chercher les patients au plus loin, etc., et s'appuyer sur l'acceptance de la communauté et le système de santé pour pouvoir essayer d'aller au plus loin dans les communautés pour donner accès aux derniers cas. L'autre élément aussi, hein, c'est mettre en place, renforcer les systèmes de surveillance, hein, pour pouvoir réagir au plus tôt s'il y a un autre break qui apparaît. Et donc ça, c'est quelque chose d'important, comme mentionné. Tout ce qui est système transfrontalier est aussi quelque chose d'assez important à développer. Et le troisième élément, c'est de pouvoir aider au redéploiement des systèmes de santé et redonner un peu confiance aux agents de santé de pouvoir retourner dans les structures. Et à ce niveau-là, nous, on pense aussi que l'accès pour les vaccins Ebola, on pense que les staffs de santé devraient être une des priorités pour les populations qui puissent avoir accès à ce vaccin, parce que ça permettra de redéployer, réouvrir le système de santé au plus tôt et potentiellement, s'il y a un autre outbreak, d'avoir plus de possibilités de pouvoir répondre rapidement. Donc, à ce niveau-là, on pense que c'est quelque chose d'extrêmement important au niveau des priorités pour le redéploiement des systèmes de santé.
Monsieur Dorian Job, gestionnaire adjoint du programme d'urgence de Médecins sans frontières. Camille Grosdidier pour Carrefour Sciences et Santé. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique sur les ondes de la Voix de l'Amérique. De nouveaux travaux sur l'évolution de la tuberculose permettent d'espérer la mise au point de nouveaux diagnostics et traitements. Sur les quelques 9 millions de personnes qui chaque année attrapent la tuberculose, un tiers n'a pas accès au système de santé, selon l'Organisation mondiale de la santé. La maladie fait plus d'un million de morts par an à travers le monde, d'où l'importance des travaux publiés par une équipe de chercheurs internationaux. Ils affirment avoir dévoilé les origines de souches de la tuberculose multirésistantes aux antibiotiques. Ces travaux menés par les équipes de Philippe Supply à l'Institut Pasteur de Lille, Thierry Wirth au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris et de Stefan Niemann au Bordstel Research Institute en Allemagne sont parvenus à retracer l'histoire évolutive de la Mycobacterium tuberculosis, dite M. tuberculosis. Ils ont été publiés dans la revue Nature Genetics. Les scientifiques se sont penchés plus particulièrement sur la lignée dite de Beijing, associée à la propagation des formes résistantes aux antibiotiques de la maladie en Eurasie. Pour plus de précision, on écoute M. Philippe Supply.
Nous avons confirmé cette origine en réalisant une série d'analyses génétiques sur un vaste ensemble de souches rassemblées à partir de 99 pays à travers le monde.
C'est un énorme travail.
C'est un travail en effet important qui a pu être réalisé grâce à la collaboration d'un consortium international regroupant des équipes non seulement en Europe, mais aussi en Afrique, en Amérique et en Asie.
Vous avez pu donc mieux analyser la lignée de souche dite Beijing. De quoi s'agit-il ?
Cette lignée porte ce nom de Beijing parce qu'elle a été identifiée pour la première fois dans la région de Beijing, donc en Chine. Et donc nous avons voulu savoir si cette région représentait la région d'origine. Et donc ce que nous avons fait, c'est reconstituer l'arbre évolutif de cette lignée, et nous avons identifié les branches les plus ancestrales de cette lignée, et nous avons observé que ces branches plus ancestrales étaient beaucoup plus largement représentées justement en Extrême-Orient, donc autour de la région de Beijing, au Japon et en Corée.
Mais vos analyses génétiques ont montré que la lignée Beijing a émergé il y a quelques 7000 ans, donc en fait, la tuberculose est une maladie vraiment qui remonte dans le temps.
Oui, absolument. Donc, c'est une maladie qui est assez ancienne. Il y a un débat actuellement pour déterminer la période d'émergence de non seulement de la lignée Beijing, c'est ce que nous avons étudié nous, mais il y a d'autres lignées qui existent aussi. Donc, pour essayer de déterminer la date d'émergence de l'ensemble des souches de toutes les lignées de l'agent de la tuberculose.
Alors, la tuberculose, en fait, a connu un essor à travers le monde et son seul déclin aurait été donc avec l'apparition des antibiotiques.
Oui, en tout cas, c'est ce que nous avons noté en analysant justement les tailles, les effectifs de la population de souches de cette lignée. Nous avons observé des phases d'augmentation en termes de nombre de souches circulantes, notamment à l'époque de la révolution industrielle. Et nous pensons que ça reflète l'effet de la densification de population humaine qui favorise la contagion. Nous avons remarqué une deuxième phase d'expansion très nette autour de la période correspondant à la Première Guerre mondiale. Et là, nous pensons que, et c'est d'ailleurs documenté, que c'est lié à un pic de mortalité dû à la tuberculose à cette époque, non seulement en Europe, mais ailleurs dans le monde aussi, dû aux privations subies par les populations à cette époque-là, qui les rendaient plus susceptibles à la maladie, et aussi lié à la comortalité induite par l'épidémie de grippe espagnole qui a sévi à ce moment-là. Ensuite, on a vu une phase de stabilisation, et en effet, on a observé une seule phase de décroissance dans les années 60, qui coïncide avec l'époque où les antibiotiques ont été utilisés à grande échelle pour lutter contre la tuberculose. Mais on n'a vu qu'une seule phase comme celle-là.
L'équipe de chercheurs a identifié des mutations et des gènes possiblement associés à la propagation épidémique et à la résistance aux antibiotiques. Et alors, ça permet d'espérer des cibles potentielles de traitement contre la maladie ?
Oui, tout à fait. En fait, en ayant identifié ces nouvelles cibles, on espère pouvoir développer de nouveaux tests diagnostiques permettant de les interroger, de les rechercher et d'identifier les mutations associées à la résistance aux antibiotiques pour pouvoir permettre la mise en place de traitements plus efficaces et plus adaptés pour les patients souffrant notamment de formes multirésistantes de la maladie. Vous avez dit qu'il y avait une phase de décroissance liée à l'introduction des antibiotiques. Et en fait, cette phase s'est interrompue à la fin des années 80, donc ce qui concorde avec le début de l'épidémie de sida, dont on sait qu'elle favorise la susceptibilité à la tuberculose, et aussi avec les premières épidémies de tuberculose multirésistante recensées dans le monde. Et donc, on voit là l'effet de maladies qui se développent en parallèle et aussi justement les problèmes associés à l'émergence de résistance. Et pour le problème de l'émergence de la résistance, en fait, on a pu identifier deux souches majeures en Europe orientale et en Asie centrale qui sont multirésistantes aux antibiotiques. Et on a pu dater le début de l'expansion de ces souches. En fait, et cette date coïncide avec l'effondrement du système de santé publique en ex-URSS, ce qui montre que lorsqu'on a un système de santé publique qui fait défaut, on a le risque de voir proliférer des souches qui sont extrêmement problématiques.
Philippe Supli de l'Institut Pasteur à Lille, il était joint en France. Ici Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute de Carrefour Sciences et Santé, au micro Camille Grosdidier. Vous suivez ce programme sur VOA Afrique. Grâce à un scientifique britannique, il se pourrait que près d'un million de Rwandais et malvoyants puissent enfin acquérir des lunettes. Je laisse Anne Arbutson expliquer.
Le Rwanda ne compte que 14 ophtalmologues pour une population de 11 millions de personnes. Cela n'a rien d'exceptionnel si l'on songe que 95% des malvoyants en Afrique subsaharienne ne possèdent pas de lunettes, selon l'ONG Vision for a Nation. Le fondateur de cette organisation basée en Grande-Bretagne, James Chen, précise que le Rwanda est l'un des pays où la pénurie de lunettes se fait le plus ressentir, notamment parmi les enfants en âge d'être scolarisés.
Nous nous attendons à ce qu'environ 1 million de Rwandais aient besoin des lunettes. Il est probable que 900 000 nécessiteront simplement des lunettes de lecture, ce que nous pouvons fournir, ou encore nos lunettes ajustables.
Grâce à une nouvelle technologie développée par l'Université d'Oxford en Grande-Bretagne, l'entreprise créée par M. Chen, AdLens, fabrique deux types de lunettes auto-ajustables pour une vision plus précise. Elles permettent de corriger soi-même sa vision sans l'intervention de professionnels de l'optique. Graham McKenzie, ophtalmologue à Adlands, explique que ces lunettes aident particulièrement les gens dont la vision varie.
Si votre vue fluctue de jour en jour ou même d'une minute à l'autre, vous pouvez simplement réajuster la puissance de la lentille pour répondre à vos besoins. Cette technologie, sous sa forme actuelle, a un rayon d'action très large, tellement ample en fait que nous pouvons corriger 90% des erreurs de réfraction qui existent dans le monde.
Grâce à des financements du groupe de la Banque mondiale, les Rwandais ne verseront qu'une somme modique pour leurs nouvelles lunettes, environ 1,5 $. À noter néanmoins qu'il s'agit du salaire moyen d'un Rwandais pour 3 jours de travail et que ces lunettes ne seront donc pas à la portée de tous. L'ONG Vision for a Nation a formé près de 1200 infirmiers et infirmières pour aider les usagers à apprendre à se servir de ces lunettes. Si tout se passe bien, le programme sera élargi à d'autres pays.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, Camille Grosdidier pour Carrefour Science et Santé sur VOA Afrique. La sonde Dawn de l'Agence spatiale américaine, la NASA, se rapproche de la planète naine Cérès qu'elle doit rejoindre en mars 2015. Cette planète est située dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Le point avec Jacques Aristide.
En plus de cartographier la surface de Cérès et d'en étudier la structure interne, Dawn va tenter de déterminer si la microplanète a pu, à un moment dans son histoire, abriter une forme de vie. Dawn a été lancée le 27 septembre 2007. Dotée d'un moteur ionique, elle a bénéficié de l'assistance gravitationnelle de la planète Mars en février 2009 pour se propulser vers la protoplanète Vesta qu'elle a rejoint en juillet 2011 avant de repartir vers Cérès. Sa mission autour de Cérès doit durer jusqu'à juillet 2015. L'ingénieur Mark Riemann, directeur de la mission.
C'est la première fois en plus de 57 ans d'exploration spatiale que nous avons un vaisseau spatial dont la mission est d'atteindre deux destinations extraterrestres.
Vesta et Cérès sont toutes deux considérées comme des protoplanètes, des embryons de planètes. Mark Riemann, à nouveau.
Vesta et Cérès étaient en train de se former pour devenir des planètes de taille normale lorsque leur croissance a été interrompue.
Cérès mesure environ 1000 km de diamètre et contiendrait entre 15 et 25% d'eau. Sa surface serait percée par des geysers et elle pourrait même abriter un océan souterrain, pensent les chercheurs. L'une des responsables de la mission Dawn, Carole Raymond.
L'un des intérêts présentés par des protoplanètes comme Cérès ou d'autres structures aux limites du système solaire, c'est leur impact sur les planètes comme la Terre. Elles ont amené beaucoup d'eau, suscitant un débat vigoureux pour savoir si elles ont pu être la source principale de l'eau sur la Terre.
C'est en arrivant près de Vesta que Dawn a permis aux astronomes de découvrir l'ampleur de ces réserves en eau. Carole Raymond, encore une fois.
À la surprise de l'équipe, au lieu d'être très sèche, ce à quoi nous attendions, la surface de Vesta était dotée de taches témoignant d'importantes quantités d'eau dans les roches et peut-être même de l'eau à la surface qui aurait pu couler dans le passé.
Qui dit eau dit vie, ajoutent les scientifiques. Si les protoplanètes ont fourni de l'eau à la Terre, elles ont pu également semer la vie. Au centre de la NASA, chargé de superviser la mission de Dawn à Los Angeles, l'équipe de contrôle envoie seconde par seconde des instructions à l'engin spatial dirigeant chaque mouvement, y compris les images prises par la sonde. Une fois satellisée autour de Cérès début mars 2015, la sonde s'approchera progressivement de sa surface jusqu'à la survoler depuis une altitude de seulement 380 km. Dawn révélera alors des détails d'une cinquantaine de mètres seulement à la surface de Cérès, qui sera bien sûr entièrement cartographiée.
Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de La Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier, qui vous remercie de l'avoir suivi sur VOA Afrique.